en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, le thème que je vais m'efforcer de traiter est d'une triste et terrible actualité. Depuis plusieurs années notamment, dans le monde agricole que je côtoie, je sens poindre la colère alors qu'on impose aux producteurs des règlements aussi coûteux qu'inefficaces. Je vais donc parler de diesel, de pollution, de biodiversité. Et comme vous l'avez tous remarqué, le thème de ma conférence, c'est le début d'une phrase de Marcel Proust que je vais lire intégralement et qui est la suivante. « Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Ils n'ont pas fait naître celle-ci. » Ils ne les détruisent pas. Ils peuvent leur infliger les plus constants démentis sans les affaiblir. Et une avalanche de malheurs ou de maladies dans une famille ne fera pas douter de la bonté de son Dieu ou du talent de son médecin. Je rappelle que le père de Proust était médecin. Proust évoque ici l'enracinement des croyances religieuses et celles que l'on peut avoir, quoi qu'il arrive, en son médecin. Toutefois, si l'on sort du domaine de la religion et des limites de toute thérapeutique, fussent-elles contemporaines, on pourrait penser qu'il en irait autrement du domaine de la science, où il est possible d'infirmer certaines hypothèses et donc de les distinguer de celles qui ne portent ni à la confirmation ni à la réfutation. Pourtant, abondent dans ce domaine aussi des cathédrales construites sur des toiles d'araignée, pour reprendre l'image de Joseph de Maistre. Cet après-midi, je me limiterai à ce seul type de croyance, celle pour lesquelles il pourrait être montré, soit par la simple logique, soit par des résultats empiriques, qu'elles n'ont aucune raison objective de se propager. Pourtant, alors qu'il y a un quart de siècle à peine, on estimait que la science permettait de vaincre les maladies et de nourrir l'humanité, on craint aujourd'hui d'être empoisonné par les médicaments et les produits agricoles. On prône un retour à la nature, la science est en procès. À l'instar de Jules Verne, dont les premiers personnages étaient des bienfaiteurs de l'humanité et les derniers des fous paranoïaques, l'opinion publique a basculé, même si en France, depuis 1945, l'espérance de vie à la naissance s'est accrue de 21 années et la productivité de l'agriculture a été multipliée par 3. Dans le monde, depuis le début de ce 21e siècle, l'espérance de vie à la naissance gagne 4 mois par an. Il n'y a jamais eu aussi peu de malnourris. Depuis 1990, le nombre d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans a été divisé par 2 et le nombre de personnes vivant au-dessous du niveau de pauvreté est passé en 25 ans de 33% à 10% de l'humanité. Et pourtant, pendant les 40 minutes de cet exposé, je pourrais décliner les bienfaits de la science et de ses applications. Ce rappel n'est pas scientiste. L'ordre de la science est limité. Et si grâce à l'extraordinaire productivité de l'agriculture, beaucoup d'êtres humains ont été libérés des contraintes de la Terre, la science ne dit rien de l'utilisation du temps ainsi trouvé. Faut-il mieux consulter Facebook que de garder les vaches? La science ne répond pas à cette question. Toutefois, la démarche scientifique ne peut pas être condamnée pour la liberté qu'elle offre aux humains. Donc, dans ce domaine aussi, les croyances, ces opinions intimes qui excluent le doute, ont leur vie propre. Il est vrai qu'il y a plus de 70 ans, les travaux de l'équipe de Paul Lazarsfeld à Columbia montraient déjà qu'à l'exception du comportement électoral, le lien entre opinion et comportement est ténu. Et on a plus souvent l'opinion de ses comportements que le comportement de ses opinions. Ainsi, après cette entrée en matière et après avoir succinctement présenté quelques exemples d'opinions infondées, je vais tenter d'avancer des raisons épistémologiques, sociales et politiques au fossé qui se creuse entre opinion et connaissances scientifiques. Je vous prie d'être indulgent pour cette imprudente ambition, croyance, opinion, comportement, science, fait, écologie, tous ces concepts méritent développement et nuances pour lesquels je n'aurai pas toujours la prudence requise. 5 exemples. Alors, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous citer Jean de La Fontaine en vous disant quelques mots de l'astrologie. Dans l'astrologue qui se laisse tomber dans un puits, La Fontaine met en évidence une contradiction fondamentale de cette croyance. Elle est de nature logique et vous allez voir, elle se dit en deux vers. Du reste, en quoi répond au sort toujours divers ce train toujours égal dont marche l'univers ? Du reste, en quoi répond toujours au sort toujours divers des humains, bien entendu. C'est aussi dans cette même fable que La Fontaine remarquait que du hasard, il n'est point de science. S'il en était, on aurait tort de l'appeler hasard, ni fortune, ni sort, toute chose très incertaine. À l'évidence, ces vers ne sont jamais parvenus aux oreilles des législateurs qui ont inscrit le principe de précaution dans la charte de l'environnement. Ce principe laisse croire en effet qu'en cas d'événement incertain, pour ne pas dire hasardeux, on pourrait prendre des mesures proportionnées. Or, du hasard, il n'est point de science, et ce qui est incertain le demeure. Quant à l'astrologie, elle prospère. 4 siècles plus tard, des horoscopes sont publiés chaque jour, et une prestigieuse université française délivre un doctorat à une grande prêtresse de cette pseudo-science. L'homéopathie. Alors, j'ai voulu vous parler de l'homéopathie parce que c'est assez rigolo, vous allez voir. Mais néanmoins remboursé par l'assurance maladie. Donc en 2018, en France, les prescriptions homéopathiques sont remboursées à 30% par l'assurance maladie, grâce à Madame Dufoy, et à 70% par les assurances complémentaires. Alors la somme de tout ça, ça fait un peu plus de 200 millions d'euros, donc c'est pas négligeable. Alors qu'elles ne contraignent rien, rien d'autre que du lactose. En effet, écoutez-moi bien, comment un grain de sucre, qui aurait en principe capturé un millième de milliardième de milliardième de milliardième de grammes, 10 à la puissance moins 30, de piment, pourrait guérir les personnes timides de leur phobie rougissante, sous prétexte qu'à dose normale, la graine de piment, quand on la croque, fait rougir. À supposer que ce qui nuit à forte dose soigne à dose infinitésimale, qui est la dose fondamentale de l'homéopathie, comme vous savez, que la mémoire de l'eau existe, qu'elle se transporte dans le sucre, ce qui serait une autre surprenante découverte, comment une telle dilution d'une telle substance pourrait avoir un effet vasoconstricteur chez les timides. Certes, une gélule sans principe actif ne fait pas de mal. Certes, l'effet placebo existe, mais pourquoi l'obscurantisme devrait-il être remboursé par l'assurance maladie ? En février 2016, l'Académie des sciences russes a publié un mémorandum dans lequel elle expose, je cite, « les explications des effets supposés de l'homéopathie contreviennent aux lois chimiques, physiques et biologiques connues et son efficacité n'est corroborée par aucune expérimentation convaincante ». Quant à l'Espagne, aujourd'hui, à l'automne 2018, son ministre de la Santé mène une campagne auprès de l'Union européenne pour que ces produits ne soient pas qualifiés de médicaments. La biodiversité, là c'est un domaine plus complexe, je vais en parler qu'un tout petit peu. Et donc vous parlez un tout petit peu d'écologie. Donc tout milieu se caractérise par un équilibre dynamique. Pour le comprendre, il faut en connaître la géographie, la pédologie, le climat, et surtout qui vit là, qui mange quoi et qui mange qui. Sans oublier la vie microscopique, car l'essentiel de ce qui vit sur Terre est à l'échelon du micron. Alors, je ne vais pas tromper de l'ordre de grandeur, mais vous serez surpris d'apprendre que dans un gramme de Terre, il y a 1 milliard de bactéries, 1 milliard dans un gramme de Terre, et 100 000 d'espèces différentes de champignons. C'est exact. Hein ? En équilibre dynamique, tout écosystème peut être déstabilisé par un seul facteur, comme le climat. Ainsi, il y a 16 000 ans, en sortant de l'Institut, nous aurions pu croiser un troupeau de mammouths laineux. Le climat, mais aussi l'homme, qui déstabilise les milieux dans lesquels il vit. Nul doute que notre espèce transforme la planète et, dans certaines conditions, la saccage. Et ce faisant, déséquilibre, voire détruit des milieux fragiles. Et, dans certaines conditions, le saccage... il en est ainsi des zones pélagiques ou semi-désertiques, mais aussi de la forêt tropicale dont on exploite les grands arbres. La vie à l'état sauvage des grands mammifères est menacée. Il y a aujourd'hui plus de tigres en captivité qu'à l'état sauvage. Les conséquences de la pollution des océans par les plastiques comme celles de la surpêche sont inquiétantes. Toutefois, cette dégradation du milieu ne se constate pas en France, bien au contraire. La pollution atmosphérique baisse dans toutes les villes. Il suffit de regarder la couleur des immeubles et notamment celle de Notre-Dame à Paris. Il y a 3 fois plus d'espaces boisés en 2018 qu'en 1818, 4 fois plus de sangliers aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Les bouquetins, les loups, les phoques reviennent, mais aussi avec les bouquetins, la brucellose. Et si la défense de l'environnement se justifie, je suis un farouche partisan, l'ingénieur des eaux et forêts que j'ai été, un farouche partisan des parcs régionaux et nationaux, de la loi sur le littoral, qui d'ailleurs n'ont pas attendu les écologistes pour exister. Et là, il faut rendre grâce à Olivier Guichard, notamment. S'il est indispensable de contrôler l'urbanisme, les conséquences d'une incontinence réglementaire au nom de l'environnement sont dramatiques. Ce n'est pas en déversant en France une pluie de règlements que l'on sauvera les tigres, les thons rouges, les baleines à bosse, les orangs-outans et les ratons laveurs. Le barrage de Sirvaine n'aurait été qu'une retenue collinaire à près de 2000 autres. En permettant l'irrigation, elle aurait, comme les autres barrages de ce type, écrété les crues d'hiver et remis de l'eau dans la nappe phréatique en été. Le paysage de Notre-Dame-des-Landes n'a jamais été, entre guillemets, naturel. Il n'est qu'un témoignage des pratiques agricoles de la France de l'Ouest il y a moins d'un demi-siècle. Quant à interdire la construction d'un stade de football pour l'entraînement des jeunes dans les alentours de Brest, sous prétexte qu'il menacerait la vie de quelques escargots de Quimper, assez fréquents par ailleurs, c'est aussi ridicule que de retarder la construction de la rocade de contournement de Strasbourg pour épargner le milieu naturel de quelques hamsters. Nul doute, il y a dans ces combats écologiques un fort relent créationniste. Donc la nature est ce qu'elle est, il ne faut surtout pas y toucher. La pollution atmosphérique. En 2016, la presse comme la classe politique, et récemment notre président de la République a tweeté sur ce sujet, ministre et maire de Paris en tête prétendait que la pollution atmosphérique était en France à l'origine de 48 000 décès prématurés. Or, c'est impossible. Les tumeurs du larynx, de la trachée, des bronches et du poumon sont en 2015, en France, la cause de 31 000 décès. Et les pneumonies de 10 500. Donc la somme des deux, ça fait moins de 42 000. La pollution de l'air serait-elle la cause unique de ces décès? Le tabac n'aurait-il aucun effet sur les cancers du poumon et autres maladies respiratoires? Je vous rappelle que s'il y a 2000 microgrammes de particules fines par mètre cube dans la fumée des cigarettes dites légères, il suffit de 85 microgrammes par mètre cube dans l'air pour déclencher à Paris la circulation alternée. C'est d'ailleurs aussi le niveau de la pollution que l'on constate dans une cuisine au bout de 20 minutes quand on utilise un réchaud à gaz. Les pneumopathies infectieuses auraient-elles subitement disparu? Toute crise d'asthme ne serait-elle attribuable qu'à la mauvaise qualité de l'air? Alors moi, je suis asthmatique, et vraiment, ce qui est très, très dangereux pour moi, comme pour beaucoup d'entre vous qui le sont ou qui le seraient, c'est le printemps. Le vrai danger des asthmatiques, c'est le pollen. Le calcul ne dit rien des causes précises de ces décès prématurés. Les 48 000 décès ne sont pas des individus, mais le résultat d'un calcul aussi discutable que peu discuté. Il est basé sur la linéarité des effets biologiques, nous y reviendrons. Puis, soudainement, la liste des cancers potentiellement évitables en France est publiée par le bulletin hebdomadaire du CIRC, dont je reparlerai. Donc, le CIRC, c'est le Centre international de recherche sur le cancer, et qui prétend que les cancers attribuables, non pas les décès, hein, les cancers attribuables à la pollution atmosphérique ne sont plus que 1466. J'adore la précision. Alléluia, vive la résurrection. Néanmoins, les conséquences des récentes réglementations des moteurs diesel, injustement accusées, sont très concrètes. Alors, je vous dis deux mots de l'étude qui a conduit le CIRC à classer les moteurs diesel comme étant des cancérigènes avérés. C'est une étude chez des mineurs américains. Dans des mines de phosphate où il y a des mineurs qui minent avec des marteaux piqueurs dont l'énergie vient de la surface et des mineurs, les pauvres, qui minent avec des vieux moteurs diesel sans filtre. Donc vous imaginez, atmosphère confinée, moteur diesel. Et il y avait effectivement une surmortalité chez les diesels mineurs par rapport aux mineurs non diesel. En fait, cette étude a été... Alors, en plus, d'une part, quand on contrôlait pour le tabac, la différence disparaissait. Donc, c'était l'interaction diesel-tabac qui jouait. En fait, cette étude a été répliquée en Allemagne et avec des nouveaux moteurs diesel, il n'y a aucune conséquence, zéro. Bref. Quant à la voiture électrique, elle peut être la plus polluante de toutes si l'électricité est produite par des centrales à charbon, ou la moins polluante quand cette même électricité est produite par des barrages hydroélectriques ou des centrales nucléaires. Les pesticides, dernier exemple. Le fait des plus néfastes de ces règlements injustifiés porte sur l'agriculture. En l'an 2000, la France était le deuxième pays exportateur de produits agricoles. Elle n'est plus qu'au cinquième rang mondial. Depuis 18 ans, l'exportation française de fruits et légumes a baissé de 30%, alors que celle de l'Allemagne augmentait de 65%. La France importe aujourd'hui 40% de ses poulets, alors que ce taux n'était que de 6% au début de ce siècle. Quant à la position française sur le glyphosate, un fameux désherbant, elle est différente de celle des autres pays européens, alors que ce produit est infiniment moins dangereux que l'eau de Javel et le gros sel, et ô combien utile. Parce que la dose pour être tué par le glyphosate, c'est très très, il faut 800 grammes. Hein. Essayez de boire 800 grammes d'eau de Javel, voilà, vous passez de vie à trépas. Je parle, mais le gros sel, c'est pareil. Qui veut revenir à la sarclette et imposer aux ouvriers agricoles de travailler 8 heures par jour le dos courbé? Essayons en quelques mots de décrire ce qui s'est passé et tentons de comprendre pourquoi. Le CIRC, je viens d'en parler, institution onusienne basée à Lyon, a pour mission d'étudier les produits chimiques, ondes, aliments et autres substances afin de déterminer s'ils sont potentiellement cancérigènes. C'est ainsi qu'a été analysé le glyphosate, principe actif du Roundup, le désherbant le plus vendu au monde. Des études, pas toutes, chez les rongeurs de laboratoire, semblent montrer qu'à des doses élevées, cette molécule pourrait être génotoxique et donc induire l'apparition de certains cancers, par ailleurs fort rares, chez les rongeurs. Ces résultats sont néanmoins controversés et le CIRC a en cours d'étude de ce produit modifié le contenu de son rapport. Tout ça est documenté, bien entendu. Supposons toutefois qu'il existerait bien chez les petits rongeurs un danger potentiel à condition que ceux-ci absorbent longtemps des doses massives de ce produit. Ce danger n'a jamais été confirmé chez l'homme, même chez ceux qui auraient pu courir un risque élevé. Cela a été démontré notamment par une étude prospective de grande qualité, publiée le 9 novembre 2017, donc il y a juste un an. Elle porte sur 44 932 agriculteurs américains, suivis pendant 20 ans, et conclut à l'absence de lien entre l'exposition au glyphosate et la présence de cancer. Alors tout ça, c'est un peu long, mais c'est confirmé également par la maison mère du CIRC, qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé, et la FAO, et je vous cite simplement leur recommandation qui date de 2016, déclare en effet que compte tenu de l'absence de potentiel cancérigène chez les rongeurs à des doses pertinentes pour l'homme, et de l'absence de génotoxicité par voie orale chez les mammifères, et compte tenu des preuves épidémiologiques d'exposition professionnelle, la Joint Commission a conclu que le glyphosate est peu susceptible de présenter un risque cancérigène pour l'homme à travers son régime alimentaire. Je vous rappelle d'ailleurs que le glyphosate est classé dans la même catégorie que la viande rouge, catégorie 2A, et dont le titre c'est « Du fait de quelques évidences chez l'animal, mais une évidence limitée de son impact cancérigène chez les humains ». Alors vous voyez que la France a voté différemment des autres pays européens dans cette affaire et que pour faire plaisir au ministre M. Hulot, le président a indiqué que ce produit disparaîtrait des ventes dans 2 ans. Bien entendu, les agriculteurs n'y comprennent rien parce que ce produit a beaucoup d'avantages et notamment permet de faire de la culture sans labour. Et je vous rappelle que quand vous labourez un champ, vous utilisez en gros 90 litres de diesel. Quand vous faites de la culture sans labour, vous n'en utilisez que 10. La confusion des ordres règne. Le Parlement vote des lois mémorielles qui prétendent dire l'histoire et des lois scientifiques qui clament dire le vrai. Il en est ainsi de la loi sur le bisphénol A, dont le contenu ne suivait en rien les recommandations rassurantes de l'Académie de médecine. Elle a eu pour conséquence de faire sortir de France la fabrication de bisphénol, dans un pays très pollué qu'on connaît tous, qui s'appelle la Suisse, et de ses produits dérivés, soit 2 milliards d'euros de production industrielle. De surcroît, conformément à la réglementation européenne, la France ne peut pas empêcher d'importer ces produits. Comme pour les OGM, nous avons tout perdu, une filière industrielle, une recherche, et nous les importons. Donc, ça c'était la première partie. La deuxième, pourquoi Rousseau, gagne toujours ses batailles contre Voltaire et Diderot? Pourquoi ce procès contre la science, alors quelqu'un connaît un succès partagé par l'humanité entière? Deux grandes catégories de raisons. Donc, j'ai commencé par les raisons épistémologiques, puis ensuite les raisons sociales et politiques. Donc, commençons par les raisons épistémologiques. Donc, la méthode scientifique est avant tout une manière pacifique de trancher des conflits. Il n'y en a que deux. Hein. Il y a des tribunaux et la méthode scientifique. Donc, le problème des scientifiques, c'est qu'ils ne sont pas d'accord en général, mais ils se mettent d'accord sur la manière de résoudre leurs éventuels conflits. Elle n'y parvient que provisoirement et ne s'impose pas par nature. Il n'y a pas de force intrinsèque de l'idée vraie, remarquait déjà Spinoza. En outre, pour beaucoup, tout vaut mieux que l'absence d'explication. Alors, le premier sujet, c'est la nature des modèles. Les gens ne comprennent pas la différence entre un modèle et une expérience. Le problème de la science, et comme on le sait tous ici, toute chose étant égale par ailleurs. Or, dans beaucoup de circonstances, on ne peut pas rendre toute chose étant égale par ailleurs. Donc, pour démontrer que A est la cause de B, il faut mesurer les variations de A et ses effets sur B. Toute chose étant égale par ailleurs, rien de facile, car dans de nombreux cas, ce n'est pas possible. Ainsi, on ne peut pas polluer volontairement une partie de la population pour étudier empiriquement l'effet de tel ou tel polluant. Les prétendues dizaines de milliers de morts de la pollution atmosphérique ne sont pas des personnes tangibles, mais des résultats de calculs imprécis. Pour être fondée, pour être sérieuse, une estimation des effets pathogènes de la pollution atmosphérique devrait, maladie par maladie, distinguer un par un les effets de chaque polluant. Hydrocarbures, particules de différentes tailles, pas seulement de moins de 5 microns, oxyde d'azote, oxyde de soufre, monoxyde de carbone, ozone. Puis, il faudra en mesurer les conséquences à différentes doses sur chacune de ces maladies. Ensuite, et ce n'est pas le plus facile, il conviendrait d'estimer l'exposition des différents habitants à chacun de ces polluants afin de calculer le risque relatif d'une exposition donnée. Ce n'est pas fait. Ainsi, l'OMS n'a pas les mêmes estimations que l'Agence française, dont les ordres de grandeur sont insensés. Ces résultats contradictoires contribuent à la méfiance de la population, et si vous avancez quelques arguments sceptiques, on vous répondra de bonne foi, il y en a d'autres qui disent le contraire. C'est vrai. Mais de là à être capable de démontrer en quelques mots la fragilité des hypothèses des uns et le sérieux des autres, il y a un fossé infranchissable. L'interprétation du hasard. Deuxième cause épistémologique. L'esprit humain cherche des causes, ce qui le conduit souvent à confondre concomitance et causalité. Un cas illustre, vous le connaissez tous, c'est celui de la sclérose en plaques et des vaccins. En deux mots, il y a suffisamment de vaccinations chaque année pour qu'apparaissent concomitamment dans les deux mois qui suivent cette vaccination des sclérose en plaques. En fait, toutes les études montrent que cette concomitance n'est pas causale. Le biais de confirmation. Tout homme cherche les faits qui semblent confirmer ses croyances et ignore ce qui les remet en cause. Contrairement à saint Thomas d'Aquin, on voit ce que l'on croit. La Fontaine de nouveau est cette fois dans le loup et le renard. Et chacun croit fort aisément et ce qu'il craint et ce qu'il désire. La confusion entre risque et danger, j'ai évoqué cette confusion en vous parlant du glyphosate, à supposer que le glyphosate soit toxique à des doses élevées chez les petits rongeurs, il n'est pas dangereux aux doses utilisées en agriculture, y compris pour les agriculteurs. Alors bien entendu, il l'est encore moins pour ceux qui s'alimentent de produits agricoles cultivés de matières traditionnelles. Mais on sait tous ici qu'on ne peut pas répondre philosophiquement. C'est ce qu'au Moyen-Âge, on appelait la preuve diabolique. Dites-moi, montrez-moi que vous n'êtes pas coupable. Mais on a l'équivalent aujourd'hui qui est montrez-moi que jamais les ondes électromagnétiques n'ont d'effet sur la santé. Bien entendu, c'est logiquement et philosophiquement impossible. Il en est ainsi de l'énergie nucléaire, des pesticides et des produits agricoles. Et bien entendu, on oublie les toxines naturelles non spécifiques et souvent à des doses très élevées. Et comme je rappelais il y a très longtemps à une ministre de la Santé, adepte des médecines douces, en parlant de l'opium et du haschich, « Madame, ça ne devrait pas faire de mal, ce n'est rien que des plantes. » Plus sérieusement, cette folie conduit aussi à retirer de la pharmacopée certains médicaments efficaces, si bien que l'on se dirige vers un arsenal thérapeutique aussi peu dangereux qu'inefficace. Alors, plus profond peut-être pour beaucoup de gens, c'est la confusion entre facteurs de risque et causes de décès. On ne meurt pas de tabac, mais de cancer du poumon, de la gorge ou de la bouche, voire de maladies cardiaques. Certes, fumer est un important facteur de risque, notamment des cancers des voies respiratoires, mais tous les fumeurs ne meurent pas de ces cancers et certaines personnes qui en sont atteintes n'ont jamais fumé. Il en est du lien entre cirrhose du foie et consommation d'alcool. Donc déterminer les conséquences entre le fait de fumer et celui d'avoir une maladie cardiaque, un cancer du sein ou une maladie respiratoire, est un résultat de calcul assez compliqué, donc je vous passe les détails. Mais c'est possible quand l'effet est massif. Quand l'effet est très léger, c'est très difficile, et notamment parce qu'on fait une hypothèse fausse qui est celle de la linéarité des effets biologiques. Alors, c'est assez simple à comprendre. En biologie, 1000 × 1, c'est pas 1 × 1000. Alors, en revenant chez vous tout à l'heure, vous allez sortir, enfin on avait ça autrefois, on n'a plus tellement ça, mais 2 boîtes de petits pois extra fins de votre placard. Vous allez en ouvrir une, et vous allez prendre les petits pois un par un, et vous allez les balancer sur le pied. C'est très pénible, c'est salissant, etc. Non, mais c'est, bon, voilà. Puis, vous allez prendre la boîte fermée, et vous allez passer 1 fois sur le pied. Je vous jure que ça fait beaucoup plus mal. Donc l'effet dose est tout à fait essentiel. Donc quand on vous dit un produit est toxique, c'est pas vrai. Ce qui est toxique, c'est la dose. Et ça a été dit dès le XVIe siècle par Paracel. Seule la dose fait le poison. L'incompréhension des échelles de temps. Le vivant, les écosystèmes sont le produit d'une longue, très longue histoire. Ainsi, notre planète n'a pas toujours eu d'oxygène. Il a fallu qu'apparaissent il y a 3,5 milliards d'années des bactéries photosynthétiques utilisant l'énergie de la lumière du soleil, dont l'excrément dangereux et très oxydant est l'oxygène. L'écosystème de la Terre a été bouleversé. En biologie, il n'y a pas de déchets. Les excréments des uns sont la source de vie des autres. En changeant d'échelle de temps, votre éminent collègue Emmanuel Leroy-Ladurie a montré comment les variations climatiques avaient, au cours des millénaires récents, pesé sur l'histoire des hommes. Or, nous prétendons tirer des conclusions sur des variations sinon aléatoires, du moins aux causes mal connues, autour d'une moyenne de quelques décennies qui, cela dit en passant, n'a jamais rien eu de normal. Normal et moyen ne sont pas des synonymes. Donc voilà quelques raisons épistémologiques. Alors, dans les raisons sociales et politiques, en s'appuyant sur les controverses scientifiques accomplissant la mission tracée par Hans Jonas, philosophe allemand, comme vous le savez, et son heuristique de la crainte, les écologistes politiques utilisent à la fois les techniques et les valeurs de la société contemporaine pour diffuser leur idéologie malthusienne de la décroissance et une influence qui dépasse très largement leur électorat. Alors, le plus important, c'est la coupure avec le monde agricole. S'il y a 70 ans, 40% de la population active était agricole, si pendant la dernière guerre mondiale, tous les Français avaient essayé de s'approvisionner dans des fermes, nos contemporains ignorent tout de l'agriculture d'aujourd'hui, de sa rigueur, de son ouverture, de sa modernité. Beaucoup d'enfants découvrent tardivement que pour manger de la viande, il faut tuer un animal. Or, comme les humains sont omnivores, comme il n'y a plus de rite et de rythme alimentaire, à Paris, il y a un chiffre qui m'a absolument sidéré, qui est récent, c'est que 25% des gens qui vivent à Paris ne préparent plus jamais de repas. 25% des gens qui vivent... Voilà. Le contemporain rejette donc sur le monde agricole les peurs alimentaires et fleurissent les végétariens, les véganes, les orthorexiques, les amateurs du sang, SANS bien sûr. Sans gluten, sans viande, sans OGM, mais pas sans prix. Moins il y en a, plus c'est cher, en gros. Les grandes chaînes de distribution, sans vergogne et sans réaction de la puissance publique, distinguent certains produits en prétendant qu'ils sont de qualité, qu'elles soient bio, naturelles ou locales. Plus grave, la puissance publique réglemente et rend de facto impossible certaines cultures, poussées en cela par les écologistes politiques qui prennent prétexte de la santé pour défendre leur thèse première de la décroissance. 80% de la population française est urbaine, ce chiffre dépasse 90% au Royaume-Uni, et qu'ils soient anglais ou français, les urbains mythifient la nature. Ainsi, au Royaume-Uni, le National Trust a plus d'adhérents que les partis politiques, et donc ces urbains acceptent des normes au nom d'une nature mythifiée. Une crainte ciblée en la toute-puissance de la science, vous savez ça mieux que moi. Déjà à la fin du 19e, Jules Verne donc marquait son ambivalence. Et depuis, comme vous le savez, il y a eu Hiroshima et d'autres catastrophes. Est-ce que je suis à la bonne page ? La pollution des océans est d'indéniable catastrophe écologique, du fait de la puissance donnée à l'homme par la technique. Plus récemment, on s'ajoute à cela la mythification de la nature qui proscrit en France les OGM du règne végétal, tandis que paradoxalement, Le Téléthon connaît un extraordinaire soutien populaire. Alors le Téléthon, il est fait pour fabriquer des OGM, au cas où ça voudrait échapper, alors des OGM humains. Mais donc on modifie les gènes pour faire en sorte que ces pauvres enfants aient un gène qui permet de combattre la dégénérescence de leur tissu musculaire. La recherche de l'émotion et le refus de la complexité. Les humains donnent la priorité aux mauvaises nouvelles, et d'autant plus qu'ils perçoivent les prophètes de malheur comme étant des altruistes. Les chaînes radiophoniques ou télévisuelles, dites d'information, cherchent avant tout à émouvoir. Incendie ici, passage à niveau là, violence sexuelle d'hier ou d'aujourd'hui, chef d'entreprise indélicat, crime sordide, nos réveils radiophoniques ne sont qu'un mélange de faits divers, entrecoupés de météorologie et d'horoscopes, assaisonnés d'interviews, donc d'opinions. Avec une tranche de dérision dont il ne reste rien que le malheur des uns, le ridicule des autres et l'absence de scrupules de beaucoup. Et nous voilà pris entre le politiquement correct et le nihilisme. Quand vous souhaitez qu'un sujet se traite au fond, il suffit d'ouvrir cette même radio pour constater que l'animateur s'impatiente quand l'invité tente une explication. Il est alors immédiatement interrompu pour savoir ce qu'il faut en penser. Les faits ne comptent pas, seule l'opinion importe. Ainsi, qui peut comprendre la crise du système de santé quand les émissions sur ce thème se limitent à l'épuisement des soignants, l'engorgement des urgences, je vais trop vite, et les délais de rendez-vous chez les ophtalmologues. Et ces explications suffisent parce qu'elles sont maintes fois répétées et que l'esprit du temps les prenne pour vrai, car l'homo sapiens est avant tout conformiste. La puissance de l'image, j'ai presque fini. D'un point de vue géologique ou hydrologique, il n'y a aucune différence entre un phénomène naturel et une catastrophe naturelle. Si ce n'est que dans le second cas, des êtres humains sont touchés par l'inondation, l'éruption volcanique ou le raz-de-marée. Comme cela produit sinon de belles, du moins de spectaculaires images, confortablement assises devant la télévision, une partie de l'humanité assiste impuissante et empathique à ces drames et est persuadée que la fréquence de tels phénomènes s'amplifie. Ce n'est pas le cas, notamment pour les crues des fleuves en France, dont les records ont tous été battus avant 1914. Toutefois, des phénomènes naturels moins puissants que ceux d'hier peuvent produire aujourd'hui plus de catastrophes, car des habitations se sont construites dans des zones inondables. Internet, vous entendrez bientôt mon collègue de l'Académie des sciences, l'Académie des technos, Gérald Bronner, et vous savez, il vous dira mieux que moi, mais en deux mots ce qu'il dit, il parle de la création d'un oligopole cognitif, pour reprendre son expression. Les moteurs de recherche contribuent en effet à l'apparition de ce qu'il appelle une démocratie des crédules et pas une popularisation des savoirs, comme on aurait pu l'espérer. Les croyants publient, les croyants agissent, les croyants argumentent, quand les scientifiques ne passent guère de temps à réfuter leurs idées farfelues jusqu'au moment où elles deviennent dangereuses. Il est alors bien tard, car les algorithmes des moteurs de recherche draguent cette bouillie intellectuelle et la font remonter à la surface. Quant à l'accès de tous au savoir, il est une condition nécessaire pour fonder une opinion, mais il est loin d'être suffisante. La sélection de la classe politique. Dans les gouvernements de François Hollande, il n'y avait pas d'agriculteurs, pas d'ouvriers, pas de chefs d'entreprise, pas d'ingénieurs, pas de chercheurs en sciences sociales, donc pour l'essentiel des sophistes préoccupés par la mesure de l'opinion pour tenter de mieux la satisfaire et de gagner les prochaines élections. Ils ignoraient d'autant plus facilement les plus élémentaires des faits établis que la presse n'attirait que trop rarement l'attention du public sur leur total mépris des faits. Ainsi, François Hollande s'était engagé à ce qu'en 2025, 50% de l'électricité française soit produite par des centrales nucléaires. Pour y parvenir, il eut fallu en fermer 18 et multiplier par 2 le prix de l'électricité. Or, en 5 ans, il n'a pas été capable d'en fermer une. Qui lui a fait la remarque ? La responsabilité civile et pénale des fonctionnaires. Les raisons de la continence bureaucratique des ministères techniques sont précises. En France, les fonctionnaires ont une responsabilité civile et pénale. Alors, ce n'est pas le cas au Royaume-Uni. Pendant l'affaire de la vache folle, tous les hauts fonctionnaires ont été exfiltrés. Mais en Angleterre, only the Queen est responsable. Ni aux États-Unis, il y a seulement une responsabilité civile. En outre, les ingénieurs des grands corps de l'État, qui autrefois faisaient faire et contrôlaient les infrastructures publiques, aujourd'hui ne font plus de projets, ne les font plus faire. Pour l'essentiel, ce sont les collectivités locales, mais en revanche, contrôlent et établissent des normes. Les conflits d'intérêts. À cela s'ajoute la vague de pureté, la chasse aux conflits d'intérêts qui se substitue au débat de fond. Ça, vous remarquez ça. La grande presse, notamment celle du soir, ne parle jamais de contenu. Les controverses scientifiques, pourtant fascinantes, ne sont jamais exposées. En revanche, les membres des organismes qui ne partagent pas les points de vue de leurs journalistes militants, terrible oxymore, sont discrédités pour avoir travaillé un jour pour telle ou telle entreprise. Nous avons tous des conflits d'intérêts et les agendas cachés des militants déguisés en journalistes ne sont pas moins dangereux sous prétexte que leurs intérêts ne sont pas financiers et seulement, entre guillemets, idéologiques. Le refus de l'incertitude et la quête de la protection. Incapable de réduire le chômage, la classe politique a laissé entendre qu'elle allait pouvoir protéger la population de tout. Ainsi, les assurances sociales sont devenues la sécurité sociale et celle-ci s'est transmutée en protection sociale. Comme cela ne suffisait pas, est venu le principe de précaution qui prétend, en cas d'événement incertain, être capable de prendre des mesures proportionnées. Proportionnées à quoi, on peut se le demander. À moins de remarquer que ce sont les écologistes politiques, anticapitalistes et toujours apôtres de la décroissance, qui en Europe définissent les thèmes, les règles et les solutions et ainsi nourrissent l'agenda politique et confortent les croyances de la population. S'ils trouvent un terrain fertile, c'est parce que derrière toutes ces croyances se cache le refoulement de la mort et la problèse avec l'OMS. Alors, vous connaissez tous la définition de la santé, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est un état complet de bien-être physique, psychique et mental, et pas seulement de l'absence de maladie. Et je disais à mes élèves d'autrefois que c'était la meilleure incitation à l'usage de drogue. Un état de complet bien-être physique, psychique et mental, les bonnes années peut-être, quelques secondes, et encore. Pourtant, tout n'est pas affaire d'opinion. Si les vérités scientifiques sont provisoires, leur évolution, voire leur révolution, se produisent grâce à un processus complexe. Certes, de nouveau, les scientifiques font mourir leurs hypothèses à leur place, mais leur débat est d'une autre nature, et même si vous croyez que tout est relatif, quand vous appuyez sur la commande d'un téléviseur, vous voyez une image. Terminons par une citation de Marie Curie, je la cite donc. Notre société où règne un désir âpre de luxe et de richesse ne comprend pas la valeur de la science. Elle ne comprend pas que celle-ci fait partie de son patrimoine moral le plus précieux. Elle ne se rend pas non plus suffisamment compte que la science est la base de tous les progrès qui allègent la vie humaine et diminuent la souffrance. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous.